Bonjour à tout le monde, bienvenue dans l'émission de l'écho de l'espace. Donc on fait un focus sur cette émission sur les questions d'habitat. L'espace social culturel du Diwa travaille depuis plusieurs années sur les questions de logement et d'habitat pour les personnes qui vivent ici sur le territoire et qui connaissent diverses difficultés. L'idée étant d'apporter des nouvelles perspectives, des ressources, des mises en lien pour améliorer les conditions d'habitat sur le territoire de notre place de centre social. Donc nous avons animé une semaine en juin qui s'appelait « Habiter autrement ». Et on vous propose dans cette émission de réécouter des extraits des différentes rencontres qui ont eu lieu sur différents thèmes. Dans un premier temps, vous allez entendre une rencontre autour des questions des stationnements des camions, sur Die principalement. C'est un projet que nous avons accompagné, un projet d'habitants que nous avons accompagné, qui a permis de mettre en place cette médiation avec les élus locaux, et qui a abouti sur différentes petites avancées. Je vous propose d'écouter.
Je suis Tiffaine, je suis à l'initiative en décembre d'un mail par rapport à la situation du stationnement sur Die. J'avais envie d'aller faire un tour sur le marché pour faire mes emplettes, et il n'était pas possible de stationner avec mon camion. Donc moi, il faut savoir que j'ai un Renault Master qui fait plus du coup de 2,2 m de hauteur. Et à l'époque, en décembre, Méro s'était fermé, donc les pierres avaient été réinstallées et Saint-Éloi était en cours d'aménagement. Donc il n'était pas possible de stationner sur Saint-Éloi. Du coup, c'était assez compliqué de stationner pour faire ce qu'on a à faire, qu'on ait envie par exemple d'aller boire un café, d'aller faire ses courses, faire sa vie en fait à 10, c'était très compliqué. Et j'ai contacté l'ensemble des élus municipaux, la maire et des acteurs locaux comme l'espace social, Ricochet. Enfin voilà, j'ai fait un effet ping-pong pour vraiment que ma parole soit entendue. Et ça a marché parce que du coup, Coraline est revenue très rapidement, enfin l'espace social est revenu vers moi. On a lancé comme ça un appel pour savoir en fait... qui étaient impliqués, qui étaient concernés dans la vallée, et d'avoir des témoignages pour que justement on se réunisse pour créer voilà, une dynamique à propos du stationnement. Donc il y a eu une première rencontre à la mi-mars avec quelques élus. Et mon point de vue, je trouve que depuis décembre, depuis que j'ai envoyé ce courriel, il y a une avancée dans le dialogue et la rencontre avec les élus municipaux. Et il y a une avancée par rapport aux rencontres, on arrive à se rencontrer, ça prend du temps, mais c'est très très long de mettre en place des actions, des changements, si on observe concrètement la situation depuis décembre. On en est à peu près au même point.
Moi c'est Jean, je vis en camion depuis l'âge de 19 ans. Là on est avec mon fiston posé dans le Diwa là, depuis 15 ans. À tourner à droite à gauche parce qu'il n'y a pas d'autorisation pour stationner trop longtemps. Donc l'autorisation c'est 3 mois sur un terrain privé et sur la voie publique normalement c'est 7 jours. Moi ce qui me touche c'est qu'effectivement là on est dans la situation des camions, on est hors contexte légal, c'est-à-dire que normalement on est considéré quand on est en camion, camping-car ou autre en catégorie M1, c'est-à-dire au même statut que les voitures et qu'on normalement sur l'espace public on a le droit de stationner pendant 7 jours. Et actuellement en fait depuis quelques temps il y a eu une accélération en fait d'amendes discriminatoires, enfin voilà, du fait de situations qui ont peut-être été complexes pour la mairie effectivement à gérer. Mais il y a vraiment une politique au bout d'un jour, d'une nuit, des camions qui se prennent régulièrement des amendes et ça fleurit de plus en plus. Moi j'avais interpellé il y a déjà un moment avec Marion Perrier pour réfléchir à des solutions d'accueil, notamment l'hiver. Par exemple le camping municipal qui était fermé, pourquoi pas l'utiliser pour permettre aux camions de stationner là-bas. Et donc il y a vraiment une situation difficile à vivre pour plein de gens en camion, qui a une situation plus complexe par rapport à la question du logement sur Die. C'est un droit en fait de vivre de la manière dont on l'entend, et qui a un droit français, et on travaille en ce moment avec la mairie par rapport à ça. Ce qui est chouette, c'est qu'effectivement on se retrouve avec quelques élus régulièrement pour parler de tout ça. Ce dialogue, il n'est pas forcément simple, parce qu'effectivement, nous on n'a pas souvent eu la parole pour dire comment on vit, quels sont nos besoins, comment ça se passe pour nous. Donc effectivement, quand il y a des prises de décision sur des projets ou des aménagements, mais qui sont pris sans qu'on soit pris en considération, sans qu'on soit écouté, ça tombe à côté. C'est ce qui se passe actuellement, où là, les propositions qui nous sont faites, c'est d'ouvrir le parking du Méros, mais simplement pour 3 places en zone bleue, c'est-à-dire pour 1 heure maximum. C'est-à-dire, on se pose avec le camion, on va faire des courses, on va faire des choses, mais pour 1 heure. Et sinon, la proposition, c'est d'être sur le parking de Gamfer. La rencontre et même le travail qui se fait depuis un moment donné, c'est de sortir de cette invisibilité. C'est oser dire qui on est, comment on vit et de défendre nos droits. C'est juste la reconnaissance de la vie qu'on a un peu différente des autres, mais on est des humains comme les autres, on a du sang, on a des émotions. Et quand on nous chasse, et ça nous touche et ça touche aussi nos enfants. Voilà, c'est à vivre, c'est pas forcément évident. Sur la question du stationnement, moi, il y a quelque chose pour moi qui est vraiment important, c'est la question du parking du Méros. En fait, c'est vraiment un parking en fait, qui était vraiment disponible depuis très très longtemps. Moi, je suis là depuis 15 ans, donc je l'ai connu quand il n'y avait pas des barrières. Il a été ouvert. Après, ça a évolué parce qu'il y a eu une aire pour les camping-cars. Et depuis, effectivement, le projet de Saint-Éloi, le parking du Méros s'est interdit au stationnement pour les camions.
Du coup, moi, c'est Swan. J'ai 30 ans. J'ai grandi dans le Diois. Aujourd'hui, je vis en camion ici depuis 3 ans, principalement. Au niveau de l'accueil qui nous est réservé, je pense que ce n'est pas satisfaisant. Moi je suis ici parce que il y a quelques semaines j'étais garé sur le parking de Chandillon, donc derrière Jaillance. J'ai été délogé par la police, alors que j'étais clairement pas dans un endroit qui dérangeait personne. J'ai été délogé par la police et du coup je suis venu en mairie demander l'arrêté municipal qui réglementait tout ça. Finalement je l'ai eu par les mêmes policiers qui m'avaient délogé plusieurs jours avant. La solution qui nous est proposée, c'est le parking de Saint-Éloi, un parking qui a vocation à être payant. Payant et cher en plus, parce que 10 euros la nuit, il est proche du centre, je peux lui reconnaître ça. C'est bruyant, il n'y a ni eau, ni électricité, ni sanitaire. On prévoit aussi dans le détail qu'est-ce qui est écrit dans cet arrêté. Parce qu'entre l'arrêté et son application, il y a également des problèmes.
Bonjour, bonjour à tous. Moi c'est Robin, je suis au CFPPA de Die en formation maraîchage. Moi c'est pour partager un vécu, j'ai un camion caisse qui n'est pas vraiment aménagé et sur le parking du boulodrome où je m'étais garé de nuit et en fait au bout de la 3e journée, il y a un policier qui a voulu mettre une amende. Il n'y a aucun panneau là-bas qui me stipule que mon camion n'a pas le droit de se garer. Du point de vue légal de cet arrêté, je me pose vraiment des questions. Est-ce qu'un camion fourgon peut être assimilé et sous quelle forme ? Les loyers sont chers et c'est pas forcément évident de trouver à 10 même. Et on est plusieurs à être dans le cas d'habitat léger pour une formation courte. Il y en a qui sont en formation 3 mois, moi c'est 10 mois, 9 mois. Et donc maintenant, je ne sais pas où je peux me garer, j'ai un peu peur.
Donc moi, c'est Eric, je suis conseiller municipal et je suis adjoint, pas du tout au social, mais je suis adjoint à l'économie locale, sociale et solidaire, et au tourisme. On hérite d'une situation. En fait, on vous avait reçu en fin d'un conseil municipal. Quand je dis on hérite d'une situation, c'est que, en fait, bon, on hérite de panneaux. Hein. Quand on arrive dans une mairie, on hérite de panneaux qui sont de réglementations locales qui ont été établies par les municipalités précédentes. On hérite aussi, là en l'occurrence, on hérite d'une aire de camping-car qui se situe sur Méros. Qui n'est pas du tout fonctionnelle, pour laquelle on a beaucoup de réclamations de touristes, hein, donc qui viennent, donc qui participent à la vie locale et à l'économie de la ville, qui nous disent qu'il n'y a pas la place, et donc il y avait une trentaine de places sur cette aire de camping-car, et donc on prend la décision de mieux accueillir les camping-cars. Alors qu'il y a l'étude sur les mobilités qui vient de rendre ses conclusions et qui dit qu'il y a largement le nombre de places de parking suffisant pour la commune. Donc on va voir la communauté de communes parce qu'en fait, on s'aperçoit très vite que le parking Saint-Éloi, il est au plan local d'urbanisme, au PLU, hein, donc document réglementaire, il est considéré comme une zone naturelle. La municipalité précédente a jugé utile de raser tout ce qu'il y avait et de mettre du tout venant dessus et voilà et d'en faire un parking. Donc une des solutions, c'est qu'en fait, on reprenne voilà, le PLU et qu'on en refasse une zone naturelle. qu'est-ce qu'on peut faire? Alors on est allé voir au niveau réglementaire, parce que c'est tout passe par le réglementaire. Hein. On est allé voir la communauté de communes, et la communauté de communes nous dit on peut effectivement en faire une aire de stationnement de camping-car, hein, une aire de stationnement temporaire. C'est-à-dire que les camping-cars ne pourront pas rester longtemps parce qu'il faudrait changer le PLU et mettre cette zone naturelle en zone UT, c'est-à-dire en zone qui accueille un équipement touristique. Et normalement, si on veut faire une vraie aire de camping-car, il faudrait qu'on mette des toilettes, il faudrait qu'on mette un accès à l'eau, il faudrait qu'on mette un accès à l'électricité, un peu comme un camping en fait, hein, mais réservé aux camping-cars. Une manne importante pour l'économie locale, pour la ville, et que, bien entendu, quand ils viennent en été, ben, voilà, ils souhaitent eux aussi voilà, se stationner. Et là, je reviendrai un petit peu sur la définition de ces camping-cars, camions aménagés, parce qu'en fait, il y en a plusieurs types de camions. On a les gens qui sont résidents ADI, qui ont un camion, qui se déplacent avec leur camion. On a les gens qui sont résidents ADI, qui ont un camping-car. On a des gens qui sont saisonniers, on a les gens qui sont stagiaires au CFPPA, aussi au Greta, on a aussi des gens qui vivent en camion aménagé, quoi. Donc ça fait beaucoup de camions, quoi, en fait, en tout, et donc c'est difficile pour nous de gérer tous ces camions. Donc on parlait de mettre un badge, mais un badge, c'est interdit, même pour les commerçants qui réclament à corps et à cri d'avoir des places de stationnement réservées, la loi nous interdit de favoriser tel ou tel groupe, telle catégorie socio-professionnelle par la mise en place, je veux dire, d'un écusson, d'un macaron, voilà. On a aménagé ce parking. Ça nous a coûté 50 000 euros. On va le laisser ouvert du 1er novembre au 31 mars et gratuit, mais pas plus de 72 heures parce que c'est une aire de stationnement temporaire pour les problèmes des gens qui vont au marché le samedi matin. On a dégagé 4 places près sur l'ouverture du Méros. C'est que si on ouvre le Méros pour vous, on l'ouvre pour tout le monde. Comment on arrive à faire la différence? Comment on dit, bah, toi tu peux y aller, toi tu peux pas y aller? C'est aussi une question de foncier. Et nous, on est assez ouverts à ça, hein, et on veut bien travailler avec la communauté de communes pour essayer de réfléchir à, justement, à un espace. Ce qu'on a proposé, on a enlevé les panneaux d'interdiction de stationner au niveau du parking qui est après Gamme Vert, hein, qui est un parking qui appartient à la commune. Il y avait une interdiction de stationner pour les camions, donc on a enlevé ces panneaux-là. En face, hein, les WC bon, qui vous permettaient de prendre de l'eau voilà, et avoir des cabinets d'aisance. Alors, on pourrait peut-être essayer aussi de réfléchir à des tarifs, à un tarif résident.
Jean-Vier Bertrand, je suis adjoint à la ville de Die, enfin le premier adjoint. Je suis en charge de la vie communale et donc de la police municipale, donc c'est moi le méchant de la soirée. D'abord, sur le parking de Méros, madame a dit qu'il y a 2 ans, elle y accédait facilement. En fait, il faut savoir qu'il y a toujours eu des barres pour interdire le parking de Méros. Donc ça, c'est la première chose. Je crois que la police municipale, elle fonctionne par réaction, c'est-à-dire que elle est aussi énormément sollicitée par des gens qui disent qu'ils sont embêtés par des camions, par des situations, voilà. Et aussi, il y a aussi l'autre chose sur le port de Drôme. La grande crainte qu'ils ont, c'est que si on commence à en accepter quelques-uns, l'été arrivant, on aura énormément de camions et une gestion très difficile des bords de Drôme. C'est compliqué à comprendre pour vous, mais je dirais que c'est pas de l'action, c'est de la réaction qu'on a. Bon, la police, elle dit printemps arrive, si on commence pas à leur dire de partir, on va en avoir un, demain on en voit 3, et puis on en voit 5, et on en voit 10, et après ils n'arrivent plus à gérer la situation.
Bonsoir, donc Philippe, DGS de la ville. Sur la police, je pense qu'il y a un point important, c'est effectivement cette notion de réactivité, et parfois la réactivité, pas forcément la bonne réaction. La police municipale ne peut pas faire n'importe quoi. Elle agit sous notre responsabilité. Donc, deuxième point, sur la question des arrêtés, il faut qu'on les dépoussière. Et on a proposé de faire un petit groupe de travail en lien avec le collectif qui est animé par le SCDD pour revoir cet arrêté, le faire évoluer pour être conforme au droit et pour aussi tenir compte de ce qui a été évoqué par Éric Bellevaux et par Jean-Pierre Bertrand, c'est-à-dire sur la saisonnalité de l'usage du territoire. Et l'objectif, c'est d'essayer d'envisager des solutions de plus long terme, même si elles ne sont pas forcément très très évidentes, parce que l'état actuel du droit ne facilite pas la mise en place de ce type de solutions en termes réglementaires. On est relativement contraint pour dire le moins, mais on a une possibilité d'expérimenter. Donc c'est quelque chose qui est souhaité et qu'on va faire.
C'est vrai que j'en reçois beaucoup qui sont souvent virulents, ils se sentent agressés, ils se sentent mis en danger. Bon, c'est quand même quelque chose dont il faut tenir compte. C'est des gens que je reçois régulièrement. À un moment donné, on a eu des gens qui ont eu des comportements qu'on ne peut pas accepter. Il y a eu des plaintes à la gendarmerie, il y a eu des gens qui ont reçu des coups. Enfin bon, il y a eu des comportements extraordinaires. Alors, on peut dire que c'est un peu exceptionnel, mais il n'empêche que ça a été mal vécu par les gens qui habitent ou qui avaient leur voiture, qui se sont trouvés dégradés. Cette minorité nous a amené parfois à prendre des mesures qui sont pénalisantes pour beaucoup.
Je m'appelle Pierre Arnaud. Ça fait quelques temps que je suis adressé au CCAS de Die, néo-habitant, je ne sais pas comment on peut dire. Ça fait 2-3 ans que je viens dans le coin et 4 ans que je vis en camping-car. Et pour moi, le constat, il est simple, mais très très simple. Où est-ce que je peux me garer, sachant que tous les parkings sont marqués interdits aux camping-cars? Où est-ce que je me mets? Alors pour l'instant, j'ai entre guillemets le privilège de travailler pour le camping municipal de Justin, où je suis logé sur un emplacement. Pour avoir discuté avec certains camping-caristes et ayant fait des études de sociologie, je leur demande quand même pourquoi ils sont venus là et tout. Bon, il y en a qui viennent sur du long séjour, d'autres du plus court. Et désolé de vous dire, mais que les gens, même pour une soirée ou deux, même de passage, n'ont pas envie de payer 10 euros pour ne rien avoir sur place. Ils préfèrent mettre limite le double et avoir déjà un cadre beaucoup plus agréable en bord de Drôme et en bord du Justin qu'entre une voie ferrée et une route. L'arrêté mentionne les bords de Drôme, ça concerne le boulot de Drôme, le pont rompu, ça concerne l'entrée des jardins du Perrier, ça concerne aussi l'arrière du cimetière et c'est pour ça qu'il n'est pas mentionné dans l'arrêté. Mais laissez au moins les gens stationner une journée et pas juste une heure et demie pour aller au marché, mais leur céder le temps d'apprécier votre commune avec tout son patrimoine historique, culturel.
Nous, on se doit de suivre le cadre légal que vous avez rappelé. Ensuite, il faut qu'on fasse évoluer l'arrêté parce que le cadre légal, on peut le restreindre pour tenir compte de paramètres, de contraintes particulières qu'on peut comprendre sur notamment la période estivale. Il faut organiser une rotation un petit peu plus importante des véhicules, mais de manière générale, hein, pas de manière discriminatoire parce que ça, c'est juste pas possible en termes réglementaires. Ensuite, il faut aussi, et c'est ce qu'évoquait Éric Bellevaux, organiser le stationnement des véhicules qui ont une vocation uniquement de tourisme et qui recherchent un certain nombre d'aménités et qui sont prêts à payer un prix, un camping, enfin ce qu'ils souhaitent, mais dans le cadre d'évolution de l'arrêté qu'on a évoqué et dans le cadre réglementaire, avec des postures qui ne peuvent pas être discriminatoires, avec juste cette difficulté sur laquelle je pense qu'il faudra qu'on travaille justement au groupe de travail, cette différence entre stationner et camper. Parce que là, pour le coup, autant on peut stationner n'importe où sur la voie publique, je suis complètement d'accord avec vous, autant on ne peut pas camper sur la voie publique. Et ça pose quand même la question d'après, et qui a été évoquée, c'est-à-dire comment on organise des formes d'habitat, parce qu'à un moment donné, quand on habite, bah, on campe un petit peu quand même, il faut le dire. Donc où est-ce que cette partie-là du déplacement, d'une vie entre guillemets nomade, peut s'organiser?
Après, moi ce que j'entends effectivement, et je suis content de l'entendre dire, c'est qu'effectivement il y a de la réaction plutôt que de l'action. C'est qu'il y a quand même une fracture en, comme tu dis Jean-Pierre, on ne sait pas qui sont les Diwa. Par contre, il y a des Diwa qui savent qu'ils sont Diwa, plus que d'autres. Et je peux le comprendre aussi, hein, c'est des gens qui vivent là depuis des générations, qui sont... Et c'est cette question du vivre ensemble, et c'est pas qu'un mot, et c'est dire comment est-ce qu'on va travailler peut-être ensemble pour identifier les problématiques. Et comme tu disais Jean-Pierre, bah, c'est d'entendre aussi effectivement la colère des gens. Comment on va accueillir ces peurs, ces révoltes, ces colères, ces angoisses? Moi j'invite peut-être aussi le SCDD à comment est-ce qu'on peut continuer cette aventure. À travailler avec la mairie, travailler avec les gens, travailler d'entendre comment les gens qui sont en colère ou qui ont des choses à redire et tout ça, et on nous considère comme si on était des moins que rien. Ben non, on n'est pas des moins que rien, on existe. Et par contre, effectivement, j'entends cette colère.
Voilà, cette rencontre qui a eu lieu le 9 juin a permis d'aboutir sur différentes pistes concrètes. Grâce à la motivation des élus et surtout aussi de notre directeur général des services de la ville de Die, nous avons été associés avec deux habitants représentants du groupe à un temps de travail pour modifier l'arrêté municipal qui sanctionne, légifère la question des stationnements des camions. Donc, grâce à ce travail de médiation, un temps de coopération a été organisé pour travailler très concrètement sur les espaces de stationnement et enlever toutes les parties qui sont discriminatoires et qui mettaient à mal les habitants dans leur façon de vivre et d'être sanctionnés. Donc on remercie la ville de Die pour ce travail, on souhaite que ça continue, on lâche pas l'affaire, c'est-à-dire qu'il y a besoin encore de continuer à ouvrir des espaces, bouger les cailloux, réfléchir, mettre les barrières aux normes, réfléchir à comment encore donner des perspectives au stationnement. Et puis, en effet, toute la question des préjugés, de ces représentations qu'on a sur le Diwa, des différentes formes de mode de vie, eh ben, j'invite tous les auditeurs qui ont envie de travailler sur ces questions des préjugés et du vivre ensemble dans le Diwa à rejoindre l'espace social et à venir proposer des actions concrètes pour favoriser de la paix, de la rencontre interculturelle aussi dans notre Diwa. Voilà, merci à tous les habitants qui se sont mobilisés sur ces questions. On va entendre maintenant un deuxième témoignage de rencontre qui est Paul Lacoste qui s'est déplacé du Tarn. Il représente l'association HALEM, HALEM, H-A-L-E-M, qui est une association qui a pour but de défendre les intérêts des personnes qui vivent en habitat léger, habitat mobile. On a eu la chance de vivre deux ateliers, un à destination des élus où les habitants ont pu venir écouter et aussi prendre un peu la parole. Et puis un temps spécifique pour les habitants qui vivent en habitat léger, qui avaient besoin de se repérer dans les questions juridiques. C'était un atelier d'aïkido juridique. Je vous propose d'écouter Paul Lacoste, notre intervenant.
On a une espèce d'état de législation qui est un peu larvée. Enfin, ça manque de concrétisation, quoi. Et tout dépend effectivement, malheureusement, tout repose sur les élus locaux, en grande partie, qui sont très mal accompagnés aussi. Et cette question de l'accompagnement du développement de l'habitat léger, c'était bien inscrit dans la loi, dans l'esprit de la loi. Hein. C'est noir sur blanc dans le dossier de presse du ministère qui sort en même temps que l'adoption de la loi comme quelque chose d'essentiel. On est sur un changement de culture. On est sur une évolution, de nouveaux paradigmes.
On est plus.
Voilà, faut faire un petit pas de côté, se dire oh là là, la spéculation est freinée, on sait ce que ça nous a coûté en 2008 avec la crise des subprimes. Ça peut avoir un retentissement, une vraie déflagration qui peut mettre à bas tout le système sur lequel on fonctionne tous les jours, y compris en 2008, c'était les banques, qu'on a renfloué à coups de milliards, surgit d'une ligne d'écriture. Hein. Mais c'est pour dire dans ce domaine-là, il ne faut pas avoir peur d'innover, il ne faut pas avoir peur d'expérimenter, il ne faut pas avoir peur de se dire on va prendre à bras le corps tous les problèmes et essayer de créer les solutions adaptées.
Les élus sont présents aujourd'hui ?
Alors hier c'était un temps réservé justement à l'information et puis une discussion avec les élus. Parce qu'effectivement, ils sont parfois très mal accompagnés par les cabinets d'études, par les services de l'urbanisme de l'État, sur les possibilités qu'ils ont de travailler à l'inclusion de ces habitats, de ces modes d'habiter. Et puis aujourd'hui, c'est plus pour les habitants. Quels sont les droits des habitants, de quelle manière on peut formuler une demande, de quelle manière on peut aller en direction des collectivités en leur disant voilà mon besoin d'habiter, voilà ce que je suis capable de faire, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que dans la loi Allure, ce qui est rentré dans la loi, c'est quand même un habitat autonome, intégralement réversible. Pour les élus, ils peuvent comprendre qu'il n'y a pas un investissement excessif de la collectivité, sauf de dire oui quasiment, il y a une réversibilité qui concourt à la non-artificialisation des terres, des sols, et c'est hyper important. Aujourd'hui, c'est l'objectif qui grimpe. En 2030, on va devoir avoir divisé par deux les surfaces constructibles, et en 2050, on n'artificialise plus du tout. Alors, on voit bien qu'il y a un impensé de l'habitat léger au niveau de nos têtes dirigeantes et des têtes chercheuses même qui travaillent au service de l'État. Parce que quand il y a des rapports de France Stratégie, par exemple en 2019, sur le zéro artificialisation net, la loi est passée 5 ans avant ou 6 ans avant, ils ne mettent même pas une ligne sur peut-être que la réversibilité de l'habitat serait une solution aussi intéressante que la densification ou la renaturalisation. ça pourrait même être le premier objectif. Quand on voit dans le zéro artificialisation net tel qu'il est porté dans le programme d'expérimentation de l'ADEME, tel qu'il est publié par le CEREMA, qui sont quand même les gros organismes de l'État, l'ADEME c'est l'Agence des économies d'énergie en gros, le CEREMA c'est toutes les études techniques pour les services de l'État pour l'aménagement du territoire, et ben souvent, il y a une séquence dans le zéro artificialisation net qui s'appelle éviter, réduire, compenser. C'est particulièrement l'éviter qui est mise en avant. Donc on comprend que éviter d'artificialiser à la base, c'est vraiment le truc de l'habitat réversible, de l'habitat léger sous toutes ses formes, hein, mobile ou démontable. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est que les porteurs de projets, c'est que les associations qui s'en saisissent pour dire « Mais attendez, regardez, on a un moyen. » Alors évidemment, c'est assez difficile de spéculer sur l'habitat léger. On spécule un peu comme ci, comme ça, mais ça ne fait pas des millions sur la roulette du casino tous les 4 matins. Le seul mode de spéculation sur ces habitats, c'est, c'est spéculer gentiment quand même, mais c'est l'habitat atypique de loisirs. Vous savez, les nuitées atypiques qui s'arrachent à des prix assez conséquents quand même. Une nuit en yourte, si c'est dans un camping 5 étoiles, ça va coûter bonbon.
Ouais, c'est aussi ça un problème, c'est que moi j'ai cru comprendre qu'ils acceptaient ça pour le côté touristique, mais pas pour le côté vivre dedans.
Ouais, alors que la loi en 2014 a reconnu l'habitat démontable constituant la résidence permanente de ses utilisateurs et que l'habitat mobile, même s'il n'a été interprété pendant longtemps que comme l'habitat traditionnel des gens du voyage, aujourd'hui sont voyageurs toutes les personnes dont la résidence permanente est mobile et qui ont un domicile administratif dans une boîte aux lettres, CCAS ou autre.
Voilà, on remercie Paul pour son déplacement chez nous qui a permis d'apporter beaucoup d'éclairage technique, juridique, urbanistique pour éclairer nos lanternes sur ces questions. Et on voit combien il y a encore beaucoup de travail aussi, encore une fois, pour lutter contre les préjugés, mais aussi faire en sorte qu'on puisse choisir son mode d'habitat tout en respectant les règles en vigueur sur le territoire. Pour cela, tous les habitants qui ont envie de continuer à travailler sur ces questions et de proposer des ateliers sur le DIWA, on a les 1er et 2 octobre 2023, ça sera la troisième année de rencontre nationale sur le thème de l'habitat léger. Si vous avez envie de proposer des choses, des ateliers, des rencontres, des conférences, n'hésitez pas à prendre contact avec le centre social pour vous faire connaître. J'inviterai bientôt à une réunion pour imaginer des idées, des ateliers. On peut continuer à travailler ensemble sur ce sujet dans le temps. Enfin, on va entendre une dernière rencontre qui parle de la cohabitation intergénérationnelle, cohabitation solidaire. Comment des personnes qui ont des chambres, des appartements, des grands espaces à mettre à disposition proposent de s'ouvrir à des personnes qui sont en recherche, sont temporairement sur le territoire, ont des besoins d'hébergement. La rencontre sur la cohabitation solidaire s'est déroulée encore une fois dans cette semaine « Habiter autrement ». Et je vous propose d'écouter les différents témoignages des personnes. À tout à l'heure. On a choisi d'intégrer dans cette semaine la cohabitation intergénérationnelle parce qu'en fait, c'est un dispositif que l'on porte à l'espace social. Solidarité Habitat, c'est une association qui a pour concept donc de développer de l'hébergement temporaire, de mettre en lien des hébergeurs et des personnes en recherche d'hébergement et d'accompagner ça au niveau notamment juridique. On est couvert par une loi qui s'appelle la loi Élan, qui permet de justifier, de faire reconnaître ce mode d'hébergement officiel avec un contrat, une convention en fait, hein, qui fait contractualiser deux personnes pour un temps déterminé pour s'héberger. Les conditions au départ, c'est vraiment, c'est l'intergénérationnel. On peut dire le concept de base, c'était de se dire, tiens, on a des personnes parfois qui vivent seules dans des logements qui sont un peu grands, qui ont des espaces soit indépendants, soit des chambres, qui peuvent se sentir ou pas seules, mais qui peuvent aussi avoir des charges de loyer fortes. Si on est propriétaire, on a moins ce problème-là, mais on peut avoir de l'isolement social. Puis de l'autre côté, comme je le disais, des demandes. Et l'idée, c'est de créer du lien social entre les âges.
L'idée de départ, c'est de dire, je peux être là pour aider, faire un petit service. Attention, je ne suis pas une aide à domicile, je ne suis pas une personne qui fait le ménage. Je ne peux pas remplacer quelqu'un de salarié et dont les structures, dont c'est le boulot. Par contre, tous les petits coups de pouce, les petits coups de main, l'entraide, tout ça sont bienvenus. Un côté lien social et économique. Et du coup, on peut monter jusqu'à 250 euros, environ 255 euros parfois par mois, pour contribuer aux charges dans la maison. Ce conventionnement, il vient sécuriser un peu. Non seulement il vient permettre de mettre en lien des personnes avec qui on pense que ça colle, la charte des valeurs auxquelles on adhère, qui est fondamentale. On en parlait encore hier, qu'est-ce qu'on met comme sens autour de tout ça? Pourquoi je le fais? J'adhère à quelque chose. Et puis, où c'est que je vais être? Pour combien de temps? Avec quelle contrepartie?
Alors, Marie-Françoise Lavigne, moi j'ai la chance d'avoir une maison exceptionnelle pour répondre à cette demande d'habitat partagé parce que j'ai un logement indépendant par rapport au mien. Donc, je ne sais pas si ça peut intéresser tout le monde, étant donné le fait que c'est vraiment quelque chose de bien prévu au départ, qui fait que ça répond réellement à la demande. Alors peut-être qu'on demande aux autres aussi un petit peu. Voilà.
Hélène Le Gardeur, donc je suis venue à deux titres. Le premier, c'est que je suis dans le dispositif Solidarité Habitat et je peux témoigner. Moi, j'ai pas, y a pas de logement indépendant, mais il y a quand même plusieurs chambres. Et la deuxième chose, c'est que je suis conseillère municipale en charge d'un projet de résidence autonome senior inclusive, comme on dit maintenant. Donc voilà, je pourrais en dire deux mots à la fin si ça intéresse quelqu'un.
Moi, ça fait 18 ans que je vis en colocation. C'est-à-dire quand je suis parti de chez ma mère, j'ai toujours vécu en colocation. Et dans le cadre des colocations que j'ai pu faire, j'ai vécu avec vraiment tout type de public. Et ça m'est arrivé d'être avec des personnes qui avaient un écart d'âge assez important. Je suis assez convaincu de la vie en collectivité.
Bon, moi c'est Jean-Loup, donc j'ai un projet qui est assez original, qui n'existe pas actuellement, que j'appelle Farm Basing, c'est une immersion à la ferme, et donc c'est qui rejoint à la fois le lien social, l'équilibre personnel, la nourriture digne de l'être humain, et puis l'écologie. Donc je vais surtout me nourrir de toutes les idées de tout le monde pour arriver à enrichir et préciser les termes de ce projet pour qu'il démarre. Voilà.
Sigolène, je fais partie d'un collectif nomade. Voilà, et on a envie de s'installer dans le Diwa avec des habitats légers. Ça, c'est le premier. Et on m'appelle Mamie Cœur au sein du collectif. Voilà, je suis donc la mamie du collectif, j'en ai conscience. J'étais avant dans un projet d'habitat participatif avec de l'inclusif au centre. Voilà, j'en suis partie pour plusieurs raisons, mais ça m'intéressait déjà de prendre en compte la personne âgée dans la vie, quoi, plutôt que dans le soin, on va dire, comme il est pratiqué actuellement. Et aussi, j'ai été auxiliaire de vie. Donc voilà, j'ai beaucoup accompagné à partir, à bien vivre et à bien mourir, on va dire ça.
Alors je suis Toinette, alors je suis très intéressée aussi par ce festival, voilà, dans son ensemble. Alors moi je suis plutôt à la recherche, non pas de maison ou d'appartement, mais je suis en habitat léger. Donc du coup je recherche plutôt un lieu, un bout de terrain pour pouvoir me poser quand je suis à Die, parce que je suis nomade aussi, et je suis à Die, 15 jours, après je repars, 10 jours, enfin bref, je fais des allers-retours. Voilà, donc c'est plus un bout de terrain.
Donc c'est du donnant-donnant, et puis je trouve aussi qu'en lui demandant 150 euros par mois, c'est très raisonnable, voilà. Je ne sais pas comment dire, c'est beau parce que c'est une forme de réciprocité, enfin, une forme d'échange.
On est beaucoup quand même sur le Diwa, voir des maisons, les enfants sont partis voir des maisons avec des chambres libres. Je suis en couple dans cette maison, mais il y a une chambre de libre. Et du coup, on s'est dit que c'était bien sympa de pouvoir héberger des gens. Voilà. Alors, ce que j'ai apprécié dans le dispositif que Martine Gentili organise et de l'ESCDD, de Solidarité Habitat, c'est qu'il y a un tiers qui organise. Après, je pense qu'il faut vraiment que la personne qui héberge soit extrêmement claire sur ce qu'elle a envie.
Il y a dans le dispositif une demande que la personne soit dans une dynamique de quelque chose, un projet par exemple. Et ce qui fait qu'en effet, nous on ne fait pas de l'accompagnement social, ni la personne qui héberge ne va pas faire de l'aide au droit, etc. Alors ça peut, on peut s'entraider dans les deux sens, hein, c'est bien sûr, mais ce n'est pas le principe du dispositif.
S'il y a l'amour, il n'y a pas d'administratif, on n'en a pas besoin. Ça on est clair. Cela dit, l'administratif est important. Moi, c'est jamais de contrat, jamais rien signé. Mais d'un autre côté, j'ai vu l'efficacité de, et la perspicacité, le ressenti de Martine pour intervenir justement avec quand même un minimum de structure.
Ça aide beaucoup, la relation avec Martine aide beaucoup, parce qu'on me dit on veut pas d'animaux, pas de clopes, ouais, ou je sais pas quoi, ou voilà, ou vous rentrez pas dans cette pièce-là, ou je sais pas quoi. Voilà, après c'est sur la paperasse que j'ai trouvé que c'était trop.
Ah, d'accord.
Pas parce que c'était trop, parce que ça ne correspondait pas du tout les questions.
Il me semble quand même que quand on héberge quelqu'un, eh ben, il faut d'abord avoir une confiance réciproque, tu vois. Donc le petit papier en question, il faut y passer, bon. Mais on sent quand même que cette structure a quelque chose de rassurant.
Est-ce que finalement, en termes de s'il y a un problème, ce qu'on n'a jamais envie d'avoir, bien évidemment, mais quand il y en a un, comment ça se passe? Alors après, on fait ça dans l'informel et qu'il y a un problème, ça peut être un autre problème.
Je te remercie d'avoir posé cette question, parce que moi, la première chose que j'ai demandé, c'est que la personne que j'héberge ait une responsabilité civile.
Voilà, on arrive à la fin de cette émission. Merci de l'avoir écoutée. Nous sommes passés de l'habitat mobile, l'habitat léger, l'habitat solidaire, intergénérationnel. Et il reste tout un épisode que nous n'avons pas pu enregistrer pendant la rencontre, mais qui va donner lieu à plusieurs ateliers, les questions d'habitat participatif, habitat groupé. Nous vous proposons, grâce au partenariat que nous avons notamment avec la Fondation de France, qui a soutenu cette semaine Habiter Autrement et qui continue de nous soutenir jusqu'en 2024 pour mener des événements, des rencontres sur le thème du lien social et de l'habitat. Vous retrouverez bientôt dans les informations locales un cycle d'ateliers pour se préparer à monter un projet d'habitat groupé. Donc retrouvez toutes les infos sur le site de l'espace social www.escdd.fr. Vous retrouvez toutes les informations sur les ateliers à venir. Si ces questions vous intéressent, habitez autrement dans le Diwa, eh bien contactez l'espace social et rejoignez la dynamique. À bientôt.
Thank you.